100% d'Europe, Laurent Berthaud.
Bonjour à tous et à toutes, vous qui vous désolez peut-être d'avoir des enfants collés à leur écran au lieu d'avoir le nez plongé dans un livre. Voilà une initiative que vous aurez envie de renouveler à la maison. En Lituanie, depuis un an, la Bibliothèque nationale propose aux écoliers en difficulté de lire à haute voix devant un auditeur particulièrement au poil, un chien, Marielle Vitureau.
Go. Tous les lundis, le petit Matas, tout juste 8 ans, attend avec impatience sa séance de lecture avec Mona. Sa préférence va vers un livre sur les robots. Dans l'une des salles de la section jeunesse, entièrement rénovée et modernisée, le rétriveur au long poil noir se pose à côté de lui sur de gros coussins rouges et écoute patiemment l'histoire. Ce sont les parents de Matas qui ont trouvé ce moyen pour l'aider à prendre goût au livre. En classe de CE1, le petit garçon avait de nombreuses difficultés à enchaîner les syllabes. Au bout de 2 mois de pratique, sa lecture est devenue bien plus fluide. Il comprend maintenant ce qu'il lit, relèvera Savélie Viennet, la maîtresse de Mona. Cette psychologue de formation s'est lancée depuis peu de temps dans la thérapie canine. Le chien, animal social par excellence, apporte un vrai plus pour les enfants en difficulté ou en manque de concentration.
Nous offrons un endroit où la pression n'existe plus. L'enfant sait qu'il ne sera pas jugé en lisant. On ne va pas non plus le reprendre à chaque mot. Le chien apporte une émotion positive et l'enfant associe ainsi la lecture au plaisir.
Cela fait un an que la Bibliothèque nationale de Lituanie propose ce service aux enfants de primaire. Même si le temps de lecture n'excède pas 15 minutes, les séances s'étalent sur 3 mois et permettent de faire de véritables progrès. L'enfant est aussi très impliqué dans le choix des livres. Une bibliothécaire l'accompagne, une manière supplémentaire d'éveiller l'enfant à la lecture. Lancé il y a à peine un an, près d'une cinquantaine d'écoliers ont déjà participé à ce programme et les thérapeutes y participent bénévolement. Le bouche à oreille a si bien fonctionné que la liste d'attente se rallonge chaque jour. Et l'initiative de la Bibliothèque nationale a aussi fait des émules. Une autre médiathèque publique, à quelques kilomètres de Vilnius, a elle aussi rejoint cette initiative.
Au Royaume-Uni, les anti-Brexit ne veulent pas baisser les bras. Ils ont entamé un road trip d'une semaine à travers le pays à bord d'un bus rouge. Du Pays de Galles en Écosse, en passant par plusieurs régions d'Angleterre, ils parcourent plus de 2500 km pour interpeller les Britanniques sur le mode « Is it worth it ?». Comprenez, le Brexit en vaut-il le coup? Les europhiles ont décidé d'employer la même méthode que les eurosceptiques pendant la campagne de 2016 avec leur Brexit Battle Bus. Sauf que cette fois, au lieu d'annoncer des lendemains qui chantent en sortant de l'UE, le véhicule promet en fait et damnation, Marie Billon.
Would you like 350 million pounds? Come on, treat yourself.
Yes.
Margaret Turner distribue des faux billets de banque d'une valeur de 350 millions de livres sterling. Ils sont imprimés par la Bank of Brexit Lies, comprenez la banque des mensonges du Brexit. Le visage canaille du ministre des Affaires étrangères Boris Johnson apparaît sur le côté, on dirait presque un vrai billet.
Il a cru que c'était une bonne idée de mentir aux Britanniques en écrivant sur le flanc d'un bus que si on sortait de l'UE, on économiserait 350 millions de livres chaque semaine, une somme qui irait vers notre service de santé. Je pense que ça a persuadé beaucoup de gens de voter out. C'était un mensonge.
Œil pour œil, bus pour bus donc. Les anti-Brexit du mouvement citoyen Is It Worth It ont décidé de rendre l'appareil aux eurosceptiques, explique Jane.
Avant le référendum, il y avait un autobus à peu près comme ça, mais avec des mensonges. Ici, c'est un bus avec la vérité. Et alors, on se demande maintenant si ça vaut la peine de faire le Brexit.
Après être resté bloqué quelques minutes dans les rues étroites du centre de Londres, le bus fait des tours de pâté de maison. Il traverse plusieurs fois le pont de Westminster et tourne autour du Parlement avant de se garer devant un petit parc à l'ombre du palais néo-gothique. Le but de cette parade, que le plus de gens possible le voient. Mais alors, que dit ce bus de la vérité exactement ? Le Brexit va coûter 2000 millions de livres par semaine selon un rapport du gouvernement. Cela vaut-il le coup ? Plus de 2 milliards d'euros donc, mais comment en est-on arrivé à ce chiffre ? Quentin Peel, ex-journaliste qui conclura la tournée nationale du bus par un discours dans la région du Kent, a sa petite idée.
C'est un manque de croissance économique, perte d'emplois et tout l'investissement qui n'arrive pas.
Mais le problème, c'est que comme l'étude gouvernementale n'a pas été publiée, on ne peut que spéculer, précise la députée travailliste Hélène Goodman.
Oh, ce sont les chiffres du gouvernement. Ils sont le résultat des analyses économiques que le gouvernement a effectuées, celles qu'il refuse de publier. Ce montant équivaut notamment à la perte d'opportunités commerciales. Par exemple, je représente une circonscription industrielle du nord du pays. Pour nous, quitter l'union douanière diminuerait nos activités économiques de 16%. Une personne sur quatre perdrait son emploi. Pire que lors de l'ère Thatcher. Il faut que les Britanniques aient les véritables données devant les yeux et le temps de réfléchir pour décider si le Brexit vaut vraiment le coup.
Whether Brexit is worth it.
Brexit no!
Un dissident s'est glissé parmi les militants et demande le Brexit maintenant. Beaucoup estiment en effet que le peuple a parlé, la décision a été prise. Il ne serait pas démocratique de revenir dessus et ce genre d'initiative tape à l'œil n'est qu'un artifice. Ce n'est pas l'avis de Martha Lane Fox, membre de la Chambre des Lords, sans affiliation politique.
Puisque de nouvelles informations émergent, que des chiffres sortent qui n'étaient pas disponibles quand les gens ont voté, il est important que tout cela soit communiqué de manière attractive. Ce bus qui se promène un peu partout, ça me paraît une bonne idée. Je suis une businesswoman. Quand on investit dans une entreprise, on le fait à partir de données chiffrées sur une estimation du coût. Si les informations changent, on peut retirer son investissement ou décider de ne plus acheter de nouvelles parts. C'est une très bonne comparaison.
Et voilà, le bus repartit pour poursuivre son périple. À chaque fois, des militants locaux comme Margaret Turner et son faux billet de banque se joignent à eux, parfois avec facétie. Ici, à Sutton, dans le sud de Londres, c'est un faux Boris Johnson, chevelure au vent, mais visage ébahi et regard catastrophé qui erre près du bus.
Le bus va se garer.
Les arrêts du véhicule n'ont pas été choisis par hasard. Ce sont des endroits stratégiques particulièrement touchés par le Brexit. Des universités, par exemple, mais aussi des hôpitaux, comme celui de Saint-Hélier. Le député local Tom Breg, du Parti libéral-démocrate, a suivi le bus de Westminster jusqu'ici.
Bien sûr, le bus de Boris Johnson avait promis 350 millions de livres sterling pour la National Health Service, pour le service de santé publique. L'économie de la Grande-Bretagne va être réduite à cause de l'impact du Brexit. Donc il y a moins d'argent qui peut être investi dans les services publics et la santé, par exemple. Et l'autre impact, c'est que, particulièrement dans Londres, les hôpitaux ont beaucoup d'employés qui viennent de l'Union européenne. Le risque est que ces employés ne viennent plus en Grande-Bretagne parce qu'ils pensent que la Grande-Bretagne ne reconnaît pas l'importance des employés étrangers.
Tom Brake et les militants de Is It Worth It réclament le droit de changer d'avis à la lumière de ces nouveaux éléments. Ils militent pour un autre référendum sur l'accord que Theresa May aura négocié avec Bruxelles. Ils espèrent donc que ce road trip sera une première étape vers un second référendum.
En Irlande du Nord, la chasse aux pédophiles est ouverte. Une traque menée en ligne par d'anciens paramilitaires, entre autres, et qui vise à confondre, rencontrer, voire punir leurs proies. Un nouveau phénomène que la police nord-irlandaise tente tant bien que mal d'enrayer. Précision de Julien Lagache.
La police parle d'une centaine d'incidents en seulement quelques mois, une hausse préoccupante avec un schéma désormais connu. Un groupe Facebook s'organise, ses membres se font passer pour des enfants sur différents sites et lorsqu'un adulte semble vouloir organiser un rendez-vous pour avoir des relations sexuelles, les chasseurs de pédophiles vont à sa rencontre pour l'insulter, parfois le passer à tabac et souvent filmer la confrontation. Ce procédé inquiète les forces de l'ordre dépassées par le phénomène qui craignent de ne plus pouvoir enquêter dans les règles pour amener à des poursuites judiciaires, car les preuves, hormis les confrontations elles-mêmes, sont souvent minces. Toutefois, de nombreux Nord-Irlandais n'hésitent pas à cautionner ces actes isolés au prétexte de l'inaction policière et de la protection d'enfants qui pourraient être les leurs. Mais ces chasseurs de pédophiles se sont déjà trompés de cible à quelques reprises et plusieurs de ces pseudo-justiciers sont maintenant eux-mêmes visés par des plaintes. N'en avons-nous pas marre du passé, s'interroge une chroniqueuse du Belfast Telegraph qui voit dans ces méthodes d'intimidation et d'humiliation le style paramilitaire qui caractérisait l'Irlande du Nord pendant les violences intercommunautaires de la période des troubles. C'est à la police de faire régner l'ordre, affirment les autorités qui réclament l'arrêt de ces méthodes et demandent aux chasseurs de pédophiles de s'en tenir à fournir des informations sur d'éventuels suspects, d'autant que sur les dizaines d'incidents répertoriés, seuls 3 dossiers ont jusqu'ici pu être remis à la justice. Et pour ne rien arranger, la presse a révélé que la police a transmis à certains justiciers des informations sur la façon de monter des dossiers judiciaires. Il s'agissait selon elle de montrer qu'une enquête n'est pas une expédition punitive, mais cette initiative ambiguë pourrait semer un peu plus le doute sur le rôle de chacun.
C'est une histoire sans parole qui agite une Espagne déjà secouée par les événements en Catalogne. Une célèbre chanteuse vient de mettre des mots sur l'hymne national. Avec Saint-Marin, le Kosovo et la Bosnie, l'Espagne fait en effet partie des rares pays dont l'hymne national n'a pas de parole. L'initiative de la chanteuse provoque une énorme polémique. Pour en parler avec nous, François Musso à Madrid. Alors François, a priori, cette idée pourrait plaire?
A priori, oui. D'ailleurs, beaucoup s'en réjouissent. Ça a commencé par le président du gouvernement, Mariano Rajoy, qui a envoyé un tweet dans lequel il écrit, je cite, que tous les Espagnols, nous pouvons nous sentir fiers de ces initiatives. Un autre oui enthousiaste, c'est celui de Albert Rivera, le leader de Ciudadanos, une formation de centre droit qui a le vent en poupe. Il dit qu'enfin il est possible que l'hymne national ait, je cite, des paroles et un cœur et pas seulement des instruments. En outre, une plateforme citoyenne s'est constituée avec un objectif, que les paroles de cette chanson soient interprétées par l'auteur fin avril lors de la finale de la Coupe du Roi de football entre les clubs de Barcelone et de Séville.
Alors qu'est-ce qui pose problème? La personnalité de la chanteuse?
Alors la personnalité de la chanteuse, non. On pourrait même dire que Marta Sanchez, 50 ans, qui a 33 ans de carrière, ferait plutôt l'unanimité. Elle chante bien, elle est populaire. Elle a transformé cette terre militaire en une balade avec des paroles sentimentales, sans compter que Marta Sanchez est très émue par cette possibilité, que ce soit ses paroles à elle, composées à Miami d'ailleurs, alors qu'elle était en pleine nostalgie avec son pays natal, que ce soit ses paroles, celles de l'hymne. Quel honneur, dit-elle. Le problème, c'est que beaucoup s'y opposent pour des raisons politiques, essentiellement les socialistes, la formation Podemos et bien entendu tous les nationalismes régionaux des îles Canaries, jusqu'au Pays Basque.
Mais finalement, pourquoi s'y oppose-t-il?
Et tout simplement parce qu'il ne faut pas toucher à l'hymne, un point c'est tout. Ça, c'est ce que disent les socialistes. Ce que dit Podemos et d'autres personnalités de gauche, ils ne se cachent pas à leurs yeux. Tous les symboles nationaux espagnols, aussi bien le drapeau comme l'hymne, et la monarchie d'ailleurs aussi, sont encore trop associés à la dictature de Franco, qui avait régné pendant 40 ans, ce qui fait qu'ils n'aiment pas ces symboles. L'amour de la patrie, dit le chef Pablo Iglesias, pour lui, c'est l'amour des services publics, pas les étendards ou les chants nationaux. Bref, en l'absence de consensus, il est plus que probable que l'hymne espagnol continue à ne pas avoir de parole.
François Musso, à Madrid. Encourager l'émergence de projets culturels transnationaux. C'est l'ambition du programme Europe Créative, doté d'un budget de 8 millions d'euros, pas moins. La Belgique y fait souvent appel. Parmi les bénéficiaires, on retrouve le Théâtre Royal de la Monnaie. Il est à la tête du projet Orfeo et Majnoum, une collaboration entre 7 opéras européens qui mettent à l'honneur l'échange artistique et la participation citoyenne. Alice De Baptiste s'est rendue dans les coulisses de l'opéra à Bruxelles.
Nous sommes dans les ateliers décor de la Monnaie. Une trentaine de personnes s'appliquent à assembler de grandes pièces de polyester depuis le début de la journée. Tous les visages concentrés sont tournés vers Véronique.
Maintenant qu'on a mis la colle, vous collez bien dans l'angle, ok ? Tout dedans, tout en bas.
Qu'est-ce que vous êtes en train de construire ?
Une masque de l'aigle.
Au plafond pendent déjà des marionnettes de corbeaux et de dauphins. Des masques de lynx se sont amoncelés dans un coin. Tout a été fabriqué par les bénévoles présents aujourd'hui. Ils ont répondu à une annonce de la Monnaie qui les invitait à prendre part à Orfeo Majnoun. Cette dimension participative est au cœur du projet. Roger Titli vient d'Afrique du Sud. C'est lui qui a imaginé ces masques et ces ateliers.
Je pense que c'est la chose la plus importante dans ce qu'on essaye de faire ici. La raison pour laquelle nous avons créé ces ateliers est simple. L'objectif est d'amener les citoyens à l'intérieur qu'ils aient une expérience d'un événement artistique. Ils prennent part au processus. Ça éveille plus de curiosité, ça a une portée éducative aussi, et ça rassemble les gens.
Ça a l'air de plaire à Marissa, qui s'empresse, une fois fini, de porter son masque.
Je vais l'essayer. Je vais voir un peu. Avec mon chignon, ça ne va pas être facile. Eh bien, voilà, je vois un peu, je vois.
Un petit peu à travers les plumes.
Il faudra encore un peu l'ajuster avant de pouvoir le porter lors de la parade prévue en juin prochain. Les villes de Cracovie, Aix-en-Provence, Vienne, La Valette ou encore Rotterdam organiseront également ce drôle de cortège d'animaux avec des citoyens et des communautés locales. Des bêtes qui font référence à la pièce Orfeo et Majnoun, le centre de ce projet. Cet opéra mêle deux mythes, celui d'Orphée et Eurydice, mythe occidental, avec la légende arabe Majnoun et Leïla. Ces deux récits comptent l'histoire d'amants maudits. Pour Ariane Berg, co-concepteur du projet, ce choix était une évidence.
Orfeo et Majnoun sont des histoires très similaires et les émotions qu'ils ressentent, on les ressent tous, qu'on soit chrétien, juif, bouddhiste, musulman ou hindou. Nous avons tous vécu l'amour, la perte d'un être cher et l'attente. Ce sont des émotions humaines basiques. Je pense aussi que les histoires nous connectent. Ce travail est un plaidoyer sur la collaboration, le respect et l'amour.
Cet opéra sera repris dans toutes les villes partenaires avec des choristes et des artistes différents. Une manière de raconter une histoire sous différentes facettes. Pour Peter de Caluet, le directeur de la Monnaie, cette pièce peut également jouer un rôle politique face aux enjeux européens actuels.
Avant, l'Europe, c'était pas seulement l'Europe qu'on connaît aujourd'hui, c'était le bassin méditerranéen qui était au centre de nos cultures partagées. On parle d'Énéas, on parle de Didon, on parle de Cléopâtre, on parle de César. C'est tout des histoires qui étaient aussi des histoires d'amour, qui était basé autour de la Méditerranée. Aujourd'hui, nous sommes coupés, pas seulement de l'Est, mais aussi d'Asie mineure, de l'Afrique du Nord. On considère ces pays comme des étrangers. Les gens qui viennent de ces pays comme des étrangers. Nous sommes inondés des gens qui viennent de là, donc il faut s'adapter et il faut politiquement aussi réfléchir à comment ces cultures qui ont toujours été liées à la nôtre peuvent à nouveau s'intégrer.
L'idée de réunir l'Orient et l'Occident a séduit l'Union européenne, mais c'est aussi sa large portée, sa volonté d'impliquer plusieurs communautés qui a décidé Europe créative. Barbara Gessler en est la chef d'unité au sein de la Commission européenne.
Pour nous, ce qui est important, c'est que nous permettons l'accès à la culture pour tous les gens qui normalement ne sont peut-être pas des habitués d'une maison d'opéra ou même une pièce de danse contemporaine.
Au total, l'Europe soutiendra la création d'Orfeo Majnoun à hauteur de 2 millions d'euros. La pièce aura lieu en même temps que la parade le 30 juin prochain à Bruxelles.
Tous ces sujets sont à retrouver sur notre page RFI.fr à la page émission et sur votre téléphone grâce à l'appli Pure Radio. Je vous retrouve demain pour un gros plan sur les incertitudes en Italie avant les élections de dimanche. Nous parlerons également de la résistance qui s'organise à Berlin contre la venue du géant Google. Ludivine Amado a réalisé et mis en onde cette édition.